RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'avez entendu, on a évoqué l'invalidité du mariage religieux dans l'Église catholique. Je vous propose jusqu'à 11h d'évoquer plutôt la préparation au mariage, qui est obligatoire d'ailleurs quand on veut se marier à l'Église, obligatoire maintenant. En quoi elle consiste cette préparation? Qu'est-ce que ça apporte? Quels en sont les fruits? On va regarder ça de plus près avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce qu'il existe dans vos paroisses des propositions de préparation au mariage? Dites-nous si avant le vôtre, vous avez tenu à la faire cette préparation au mariage quand ce n'était pas forcément obligatoire. Et sinon, est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'ailleurs au sein de votre couple? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, deux invités. Je commence avec vous, Anne L'Hospitalier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous faites partie de la pastorale des familles du centre diocésain de pastoral dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Anne-Gabrielle Collin. Bonjour.
Bonjour Melchior.
Merci à l'équipe de d'Angers qui vous accueille en studio, délégué épiscopal à la famille du diocèse d'Angers. Cette préparation au mariage, elle est obligatoire. Anne-Gabrielle Collin, c'est officiellement obligatoire.
Effectivement, oui, ça fait vraiment partie de ce qui est demandé aux personnes qui viennent demander le mariage à l'église. Un passage obligé dans les aujourd'hui, dans les 6-12 mois qui précèdent leur demande de mariage.
Depuis quand c'est obligatoire? Parce qu'on a entendu quelques témoignages, peut-être que vous avez tendu l'oreille, d'auditrices qui disaient qu'elles n'avaient pas pris le temps de préparer leur mariage religieux. C'était il y a plus de 20 ans. Est-ce que ça a changé, ça a bougé?
Je dirais au-delà de l'obligation, parce que peut-on vraiment parler d'une obligation qu'on peut suivre, c'est plutôt depuis quand les paroisses se sont vraiment mis en marche, ont pris cette habitude. Voilà, je pense que au niveau du diocèse d'Angers, on peut dire que ça fait bien une vingtaine d'années que chaque paroisse prend le temps. Et puis depuis, ce qui existe depuis 15-20 ans, c'est cette coordination, cette habitude de travailler ensemble, d'essayer d'améliorer ensemble sur la totalité de notre diocèse. Donc on peut dire que l'obligation, elle devient enfin, elle existe vraiment depuis, oui. depuis 15-20 ans. Dans les faits, au-delà de l'obligation, c'est le concret.
Anne L'Hospitalier, pourquoi elle est importante, cette préparation au mariage religieux?
Alors, moi, je dirais que cette préparation, elle est très importante parce que les couples qui arrivent, surtout enfin, depuis quelques années, n'ont plus du tout les codes de l'Église catholique et ne savent plus ce que c'est qu'un mariage. Pourquoi se marier plutôt à l'Église que simplement à la mairie? Donc, la préparation au mariage vise à rappeler ou à donner toutes les bases de l'Église catholique en ce qui concerne la préparation au mariage. Donc, on pourra en parler pendant des heures, hein, mais c'est très important qu'ils fassent la différence, enfin que les couples fassent la différence entre le mariage à l'église et le mariage civil. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sens que vous donnez à cette préparation au mariage. Peut-être que vous voulez compléter, Anne-Gabrielle Collin.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est vrai que parmi les couples qui viennent pour la plupart du temps aujourd'hui, enfin, je veux dire le plus grand nombre, ils ne viennent peut-être pas pour une pratique religieuse fréquente ou même avec une foi un petit peu faible. Mais par contre, s'ils se présentent à l'église, c'est pour la question de l'indissolubilité. Parce qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment ancré cette question de le mariage à l'église, c'est le mariage durable, le mariage pour toute la vie. Et cette préparation, elle est là pour pouvoir donner des trucs, hein, pour aider à durer toute la vie.
Ça donne...
Et puis comprendre aussi l'engagement dans lequel ils viennent. Quoi.
Ça donne du sens. Ça donne du sens au mariage et ça permet vraiment de comprendre ce qu'on met derrière ce terme.
derrière le terme indissolubilité, c'est
non,
ça.
Non, de mariage, oui, de mariage vraiment de comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on a tendance à voir ça un peu comme dans un conte, une série, un film. Pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et est-ce que cette préparation au mariage, elle permet vraiment de comprendre cette définition du mariage?
Moi, ce que je dirais, c'est l'ambition. Après, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est autre chose. Mais l'ambition, c'est de passer d'un projet de mariage, d'union, à une compréhension du sacrement de mariage. Voilà. Je ne me marie pas, ce qui est un acte humain, ce qui est naturel, mais nous allons contracter, enfin, nous allons vivre un sacrement dans lequel Dieu va s'engager également. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce sacrement? Ça va être aussi l'ambition de la préparation au mariage.
Anne L'Hospitalier, voilà, vraiment la compréhension du sens du mariage et tout ce que ça, comment dire, tout ce qui en découle également au sein d'un couple.
Oui, tout à fait. Je pense que, comme l'a très bien dit Anne-Gabrielle, il faut rappeler aux fiancés la notion de sacrement. Et j'ajouterais qu'il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Pourquoi ils se marient à l'église plutôt que simplement à la mairie? Et dans la préparation au mariage, il y a bien souvent, alors il y a de multiples préparations au mariage, hein, mais bien souvent, il y a des temps où on les incite à se poser des questions sur quel est le sens de cet engagement devant Dieu qu'ils vont faire ensemble, et qu'ils prennent bien conscience de ce qu'ils font. Donc, bien sûr, toute la préparation leur explique, hein, mais il faut qu'ils comprennent bien ce qu'ils font le jour J.
Je rappelle, ce matin dans Je pense donc j'agis, on parle de la préparation au mariage catholique, le mariage religieux. Vous êtes bien sûr les bienvenus en direct avec vos témoignages, nous dire si qu'avez-vous retenu de votre préparation au mariage. Peut-être que vous faites partie d'ailleurs d'un service paroissial ou diocésain de préparation au mariage religieux. Venez témoigner 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Nous sommes avec nos deux invités, Anne L'Hospitalier, vous êtes membre de la pastorale des familles du centre diocésain de pastorale du diocèse de Clermont-Ferrand, et puis Anne-Gabrielle Collin, déléguée épiscopale à la famille du diocèse d'Angers. Comment on rejoint justement ce service, Anne-Gabrielle Collin? Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez été appelée?
Alors, en tant que déléguée épiscopale pour le service famille du diocèse d'Angers, effectivement, c'est un appel. Hein. Je suis laïque en mission, donc c'est l'évêque qui est venu vers moi. Peut-être que la préparation au mariage n'était pas... avait du sens, puisque avec mon époux nous étions engagés dans l'accompagnement des couples, dans la préparation au mariage, et puis également dans d'autres mouvements d'accompagnement de couples depuis une bonne dizaine d'années, quand l'évêque d'Angers m'a appelé pour assurer cette mission qui couvre aussi tout l'accompagnement au mariage. Puis au niveau diocésain, enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en rappeler, les personnes qui accompagnent les fiancés sont appelés en paroisse, la plupart du temps par l'équipe d'animation pastorale ou par le curé. Ils sont repérés comme ayant des compétences d'accompagnement de couple. Et puis ensuite, on leur propose de suivre une formation pour pouvoir accompagner au mieux les couples et leur apporter tous ces éléments pour faire comprendre le sacrement de mariage. Donc moi, au niveau diocésain, je vais être sur cet accompagnement à la formation des personnes qui sont plus sur le terrain.
Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui vous plaisait avant d'être appelé? Est-ce que préparer les couples autour de ce sujet-là, c'est quelque chose qui vous attirait?
Mais notre expérience avec mon époux est intéressante, parce qu'il y a 23 ans, quand on s'est mariés, dans le diocèse où on était, la préparation au mariage, enfin le diocèse duquel j'étais originaire, la préparation au mariage, il n'y en avait pas vraiment. On rencontrait un prêtre une fois ou deux pour préparer la célébration, puis il n'y avait pas de préparation proprement dite. Mais il se trouve que mon époux, lui, travaillait à San Francisco avant notre mariage.
Ah oui?
Et il ne pouvait pas rentrer en France là, dans l'année qui a précédé notre mariage. Donc c'est moi qui me suis déplacée. On avait appelé un prêtre comme ça rapidement pour dire « oui, on a ce projet de mariage, c'est bon, tout est calé dans notre diocèse de Savoie ». Et il nous a regardés en nous disant « mais ça ne va pas de me prévenir avec juste 6 mois avant ». à San Francisco. Il fallait prévenir 18 mois à l'avance. Et il a fallu vraiment le convaincre. Et il nous a inscrit à des sessions de préparation au mariage, donc à San Francisco, où nous avons vécu vraiment une aventure extraordinaire avec d'autres couples, des témoignages, des jeux, des temps où on discutait tous les deux. Et c'est vrai que pendant toutes ces premières années de mariage, on se disait, nous aussi, on aimerait bien pouvoir faire vivre à des couples ce qu'on a vécu quand on était jeune avant notre mariage. Et quand on a été appelé en paroisse, ça nous a vraiment fait plaisir.
À l'hospitalier, vous, comment vous en êtes arrivé à rejoindre la pastorale des familles dans le diocèse de Clermont-Ferrand?
Alors, c'est notre évêque, Monseigneur François Caliste, qui m'a appelé. La personne qui s'en occupait était en train de partir, enfin partait à la retraite, et donc il m'a proposé de prendre sa suite. Voilà, donc j'ai été nommée déléguée diocésaine à la pastorale familiale, et donc dans cette mission, je dois m'occuper aussi de la préparation au mariage. Voilà, donc c'est plutôt un appel, oui.
Ah, un appel qui était qui est arrivé au bon moment dans votre vie.
Alors, j'étais au service communication en fait du diocèse de Clermont avant, et ça faisait 13 ans, je crois, que j'y étais, et donc j'avais envie de changer et passer plutôt dans un service de pastoral. Voilà, donc j'ai donc été nommée à la pastorale du tourisme et à la pastorale des familles.
Alors,
voilà, donc ça arrivait à un bon moment parce que j'avais envie de changer, et puis je voulais faire quelque chose vraiment de plus pastoral, et voilà, donc c'était...
Bah, il y a une différence entre vous deux, Anne-Gabrielle Collin et Anne l'hospitalier, c'est que vous ne faites pas la même chose. Je crois, si je me trompe pas, pardon, je me suis perdu dans mes notes et j'avais mal noté, mais Anne-Gabrielle, vous préparez des couples, je crois, alors que vous, Anne l'hospitalier, vous gérez plutôt le service de préparation au mariage religieux.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de couple en préparation. Je m'arrange qu'il y ait des préparations dans toutes les paroisses, parce qu'il y a 32 paroisses sur notre diocèse, donc il faut vraiment que je m'assure que tout se passe bien dans toutes les paroisses. Mais je ne prépare pas, je n'ai pas de couple en préparation. Voilà, contrairement à Anne-Gabrielle, je crois qu'il y a effectivement.
Mais qui est sur le terrain un peu plus, exactement, Anne-Gabrielle.
Oui, je dirais en fait, à titre personnel et bénévole, je fais de l'accompagnement au mariage depuis une bonne dizaine d'années avec mon époux dans notre paroisse. Nous participons aussi à un week-end diocésain de préparation au mariage qui est une proposition sur le diocèse d'Angers qui vient en complément des propositions des paroisses de notre diocèse. Et puis, au titre de la mission à laquelle l'évêque m'a appelé sur le diocèse d'Angers, donc c'est deux choses, je suis qu'une seule et même personne, mais on est bien au titre de mon engagement bénévole ou au titre de ma mission au diocèse d'Angers, j'ai aussi cette fonction comme Anne de coordonner les préparations au mariage diocésain, d'accompagner les paroisses, de fournir une formation pour les accompagnateurs qui se renouvellent dans les paroisses, donc à la fois la formation initiale, la formation continue, les relectures de missions, veiller à ce que dans chaque paroisse il y ait des appels qui soient faits et puis aller les visiter pour recueillir leurs besoins.
Catherine nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Melchior.
On vous écoute, allez-y.
Merci pour votre émission, je vais éteindre la radio.
Oui, ce sera mieux.
Oui, je voulais dire que, en fait, le fait de se marier à l'église, c'est pas un rempart pour assurer un mariage de bonne qualité. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire pour faire un bon mariage et pour être sûr que ça dure dans le temps et qu'il y aura pas de problème, c'est pas le fait de passer par l'église qui fait ça, quoi. C'est surtout, la culture intérieure de chaque époux, c'est surtout les promesses qui se sont faites avant et puis leur qualité de vie, quoi. C'est ça que je voulais dire.
Eh bien, merci beaucoup Catherine, ça a du sens vraiment, je pense, ce que vous venez de dire. Anne-Gabrielle Collin, la préparation au mariage religieux n'empêche pas, alors on l'espère pas, mais n'empêche pas des mariages moins réussi, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais je pense que vous voyez ce que je voulais dire.
Bah oui, la remarque de Catherine est tout à fait pertinente. Et je dirais que c'est aussi un des messages que nous faisons passer lors de la préparation au mariage, leur dire il faut pas se voiler la face. Voilà, c'est pas parce que on vient se marier à l'église que d'un coup, ça va être magique et ça va durer toujours. D'où l'importance encore de la préparation pour se poser des questions. Alors c'est amusant parce que les fiancés là, qui suivent les préparations, souvent ils nous disent, voilà, en paroisse ou à cette préparation diocésaine, oh là là, vous nous avez poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. Donc c'est un petit peu, voilà, on va leur faire poser des questions sur est-ce qu'ils ont déjà parlé de la mort, par exemple, ou est-ce que l'un ou l'autre voudrait être enterré, ou est-ce que qu'est-ce qu'ils sont d'accord pour le don d'organes ou pas. Enfin, on va leur faire poser des questions. Qu'est-ce qu'ils feraient s'il en tombait malade? Alors ils nous regardent en disant bah c'est pas très gai tout ça. Et en même temps, cette préparation au mariage, elle est là pour apprendre au couple à pouvoir communiquer, ouais, à pouvoir aborder tout type de questions, parler d'argent, parler d'éducation, d'origine éducative différente les uns des autres. Alors après, en leur disant, ben oui, les difficultés, elles peuvent arriver, mais oui, comment on peut mieux vous armer et comment on peut aussi, nous, couple plus âgés, plus expérimentés, vous témoigner de, dans les crises, dans les difficultés de la vie, ce qui nous a permis d'arriver à passer outre pour rester ensemble malgré tout.
Anne L'Hospitalier, ce n'est pas une assurance pour un mariage heureux.
Non, absolument pas. Non, c'est on y vise, mais ça n'est absolument pas une assurance. Et je dirais même que dans la préparation au mariage, de l'Église catholique, comme dit Anne-Gabrielle, on essaie de poser, enfin, que les gens se posent des questions sur toute la vie quotidienne et bien sûr sur toute leur vie spirituelle. Et il peut arriver que au cours de cette préparation, en fait, les personnes se disent, ben non, en fait, finalement, on n'est pas d'accord, on n'est jamais d'accord là sur les questions que vous nous incitez à nous poser. Donc il faut mieux qu'on arrête là. Et je dirais que c'est, pour nous, enfin pour la préparation au mariage, c'est pas forcément un échec. Hein, c'est que on leur a fait poser les bonnes questions, en fait.
Oui.
Voilà, donc il n'y a pas d'assurance derrière que tout réussisse à 100%.
On a un message de Marie qui va un petit peu dans ce sens. Elle nous dit, y a-t-il des personnes qui, lors de la préparation au mariage, se rendent compte qu'il vaudrait mieux renoncer? Anne L'Hospitalier ou Anne-Gabrielle? Oui, Anne-Gabrielle, allez-y, vous avez commencé. Oui.
Pardon. Je dis de fait, oui, cela arrive. Que des personnes se séparent parce qu'elles découvrent dans les sujets qu'il y a des discordances ou comment on les fait réfléchir aussi sur les piliers du mariage ou sur leur liberté intérieure, ben ils peuvent se rendre compte qui manque de liberté ou sur la notion de fidélité. Certains peuvent avoir des notions un peu différentes. Enfin, nous, ça nous est arrivé que des fiancés découvrent des infidélités et du coup se disent ben non, on va pas continuer dans cette voie du mariage.
Ouais. Geneviève, bonjour.
Oui, bonjour. Je vais vous remercier de prendre mon appel. Je vais être très brève. Vous avez dit lors de la première partie de l'émission qu'il n'était pas indispensable d'être baptisé pour être marié à l'Église. Or, il y a 50 ans, nous avons fêté nos 50 ans de mariage et il était exigé d'être baptisé pour être marié à l'Église. Donc je ne comprends pas cette évolution de l'Église ou cette contradiction.
Eh ben merci beaucoup Geneviève d'en parler depuis Paris au 04 72 38 20 23 à l'Hospitalier. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 50 ans c'était nécessaire et d'être baptisé pour demander le mariage religieux ou est-ce qu'aujourd'hui ça a un petit peu changé? C'est un peu plus ouvert?
Bah écoutez, nous demandons encore le baptême.
Hein, ouais.
Donc je suis un peu étonnée, mais je ne sais pas, Anne-Gabrielle, si...
Anne-Gabrielle Collin.
Alors, ouais. je ne saurais pas répondre sur l'évolution entre il y a 50 ans et aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'au moins un des deux fiancés soit baptisé pour qu'il y ait un mariage à l'Église.
Un des deux, alors. C'est pas les deux obligatoirement,
voilà,
c'est un des deux.
Pas les... Voilà. Un des deux. Ensuite, au démarrage de votre émission, que j'ai suivi de très loin et pas en totalité, vous avez parlé du sacrement de mariage et du droit canonique un peu, voilà. Et donc, selon que les deux fiancés sont baptisés ou qu'il y en a un seul des deux, la valeur du sacrement est différente. Voilà. je veux dire ça, les canonistes reprendraient derrière, mais nous célébrons nous pouvons célébrer des mariages avec un des deux qui est baptisé.
Voilà. Et par contre, les deux qui ne sont pas baptisés, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est pas possible.
Ah bah c'est ça n'est juste pas possible. Ouais. En revanche, si on reprend notre histoire de droit, la manière normale, enfin juridiquement normale, de se marier pour deux personnes non baptisées, c'est selon les coutumes de leur pays. En France, c'est le mariage civil. Donc leur mariage civil sera un vrai mariage reconnu par l'Église. C'est ça que j'allais dire. Un mariage entre deux baptisés qui se marient à la mairie, c'est un vrai mariage pour des personnes non baptisées. En revanche, pour une personne baptisée, son mariage doit être célébré à l'Église.
Voilà, ça répondra très bien à Geneviève. On entend qu'il y a quand même quelques règles. Est-ce que la préparation au mariage repose sur un même schéma au sein de plusieurs diocèses différents, ou alors c'est vraiment à chaque paroisse, chaque diocèse, d'apporter sa petite touche à l'hospitalier?
Alors, je pense qu'il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de parcours national, si on peut dire. Dans notre diocèse, chaque paroisse a son parcours, soit des parcours qui existent. Je sais que le parcours d'Anne Gabriel est utilisé notamment dans notre diocèse, mais chaque paroisse fait son parcours, ce qui veut dire que dans certaines paroisses, il y a 3 jours de préparation, et dans d'autres, il va y en avoir peut-être 5 ou 8, quoi. Mais il n'y a pas de parcours régulier, enfin pas parcours homogène sur tout le diocèse. Par contre, dans chaque parcours, on essaie quand même de parler des 4 piliers du mariage, et puis qu'il y ait une journée. Nous, notre souci, c'est que dans certaines paroisses, il y a un seul mariage par an, dans certaines paroisses. Ouais. Donc, l'idéal, quand même, c'est de faire une rencontre de faire une journée de rencontre entre les fiancés. Mais s'il n'y a qu'un mariage dans l'année de la paroisse, c'est un petit peu compliqué. Donc, on essaie de faire des regroupements. Et voilà. Et donc, moi, je vais essayer de faire une journée diocésaine l'année prochaine pour justement, notamment, les paroisses qui ont moins de fiancés.
Les 4 piliers.
Mais oui, chacun fait son parcours.
Ça, voilà. Chacun fait sa petite sauce. Les 4 piliers du mariage chrétien, on les rappelle, Anne-Gabriel Collin, hein, la liberté de consentement, l'indissolubilité, la fidélité, l'ouverture au don de la vie. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est bien, c'est bien. On peut les nommer un peu différemment, fécondité ou ouverture à la vie. Oui. Voilà, liberté, effectivement.
Ça, lors de la préparation au mariage, ouais. Vraiment, on prend le temps d'expliquer ces 4 piliers.
Alors, oui, on prend le temps d'expliquer les 4 piliers, mais soit on peut les expliquer un peu de manière théorique. Voilà, qu'est-ce que j'entends par indissolubilité? Qu'est-ce que j'entends par être libre, ou quel que j'entends par être fécond. Donc on peut l'expliquer de manière un peu théorique, mais aussi on peut prendre de manière un petit peu transversale. Par exemple, si on parle de la communication dans le couple, eh bien le fait de communiquer, ça sert à la fois l'indissolubilité, parce que si on communique bien, on a plus de chances de durer plus longtemps, mais ça sert aussi la communion dans le couple, ça sert une meilleure union pour la fécondité. Donc on essaye à la fois de présenter en disant, est-ce que vous avez bien compris ce à quoi ça vous engageait dans les 4 piliers du mariage, mais aussi de manière très pratico-pratique, ce qui parle un peu mieux aux fiancés.
Ouais. On a une auditrice, Maïté, qui nous pose une question. Elle nous dit, vos invités parlent d'une part de mission, d'autre part de temps bénévole. Est-ce qu'elles sont salariées? Alors, dis donc, Maïté, elle veut beaucoup de précision. Anne-Gabrielle, vous, vous êtes bénévole au sein du diocèse ou vous êtes salariée?
Alors, j'ai un petit temps salarié au sein du diocèse, voilà, un petit 35% salarié au sein du diocèse.
Voilà.
Et j'ai un travail à côté.
Et vous, Anne
L'Hospitalier,
excusez-moi. Voilà, et puis à côté, vous avez des engagements bénévoles,
Des engagements bénévoles, voilà. Par ailleurs, c'est ça.
Et vous, Anne L'Hospitalier?
Alors, moi, je suis salarié à temps partiel et sur 2 missions, donc différentes. Mais à la pastorale familiale, je succède à quelqu'un qui était bénévole.
Voilà, bah, c'est bien. On est très précis ce matin. Je rappelle qu'on parle de la préparation au mariage religieux ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos deux invités. Vous les entendez, et bien sûr, avec vos témoignages. Venez nous dire ce que vous retenez de la préparation de votre mariage. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a répondu à quelques questions? Peut-être que ça vous a mis le doute également. On a envie vraiment de tout savoir. Et même question, si vous faites partie d'un service de préparation au mariage religieux, venez nous raconter un peu votre engagement au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 ou alors par mail à l'adresse directe @rcf.fr. Vous, Anne L'Hospitalier, alors quelques chiffres, ça permet un peu de situer au niveau de votre diocèse, vous gérez, entre guillemets, 32 paroisses quand même.
Oui, c'est ça, oui. Le territoire est assez étendu. Donc, il y a 32 paroisses, donc théoriquement 32 équipes de préparation au mariage, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, il y a des paroisses où il n'y a quasiment plus de mariage. Donc, il y a des regroupements de paroisses quand il y a un mariage qui s'annonce. Voilà. Et puis, donc, en chiffres, on a à peu près 400 mariages par an depuis 2 ans.
Ah oui.
Voilà. Donc, bon, ça fait quand même.
Bah, ça fait du boulot.
Pas mal. Oui, ça fait pas mal de personnes, mais voilà, c'est enthousiasmant.
Ah ouais, c'est enthousiasmant. 32 paroisses pour le diocèse de Clermont. Vous, Anne-Gabrielle Collin, du côté d'Angers, est-ce que vous avez quelques données également à nous transmettre?
On a une cinquantaine de paroisses, oui. Entre 50 et 52 paroisses. Il y a 145 couples accompagnateurs au mariage, donc répartis sur ces 50 paroisses. Comme dans le diocèse d'Anne, il y a quelques paroisses qui célèbrent beaucoup moins de mariages, mais enfin, on a quand même... C'est quand même de grosses équipes, hein, ah, 145 oui. couples accompagnateurs, ça fait beaucoup de monde, pour 700 à 800 mariages célébrés annuellement sur notre diocèse. Peut-être ce qu'on peut dire là comme ça, c'est que nous préparons, mais c'est pareil partout, nous préparons des personnes principalement qui vivent sur notre diocèse d'Angers, mais qui parfois vont se marier dans d'autres diocèses, parce que leur famille habite plus lointaine. Et puis, à contrario, on a aussi pas mal de personnes qui viennent se marier en Maine-et-Loire et donc qui vont être comptabilisées dans les 700 ou 800 mariages, mais qui ne se sont pas forcément préparées chez nous, notamment des personnes qui vivent en région parisienne, parce que, ça je le dis pour les auditeurs, en général, on demande à ce que les personnes fassent leur préparation au mariage au plus proche de leur domicile.
Oui.
D'abord parce que c'est plus pratique, parce que ça se fait pendant l'année, et puis aussi parce que ça permet de rencontrer près de chez soi à la fois sa paroisse, hein, si après on a des enfants qu'on voulait faire baptiser, et puis, ça permet de renouer avec la foi, et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres couples qui vivent en même temps que nous le même projet, et donc potentiellement de se faire des amis, ce qui n'est pas négligeable.
Ce qui est très important, et vous le rappelez, Anne-Gabrielle Collin, on parle de couple accompagnateur, donc il faut être deux pour accompagner des futurs mariés.
Effectivement, oui, on demande, c'est un engagement qu'on prend en couple pour l'accompagnement au mariage. Et puis après, en plus, les couples vont rencontrer la personne qui va célébrer leur mariage, qui peut être un prêtre ou bien un diacre permanent qui va les accompagner. Et donc là, qui va faire ça à son titre de diacre. Parfois, son épouse peut être liée, mais là, il vient en tant que célébrant.
Et ça, c'est une petite règle aussi. On est très, on parle beaucoup de normes, de règles ce matin, mais ça a du sens un peu de savoir si c'est une condition dans les préparations, dans les services de préparation mariage, s'il faut absolument que ce soit un couple et non pas une personne isolée qui prépare. Voilà, je joue peut-être un peu sur les mots, mais ça a du sens.
En fait, dans la préparation au mariage, et puis même dans l'éducation en général, souvent on est plus marqué par le témoignage que par les enseignements descendants. Donc je dirais que dans cette mission d'accompagnement, il y a aussi cette mission de témoigner, donc on le fait en couple.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On va se retrouver dans quelques minutes, Anne-Gabrielle Collin et Anne L'Hospitalier. On entendra Nicolas et Marilyn au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous envoyer vos messages dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Petite pause. À tout de suite, les amis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Racontez-nous vos souvenirs de préparation au mariage religieux. 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Évidemment, on écoute une chanson d'amour tout de suite.
C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde autour. À qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout. Pourtant, qu'il tout le temps, ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner.
L'envie d'aimer, elle a 24 ans cette chanson, pourtant on la connaît par cœur. C'était Daniel Lévy, extrait, vous savez, de la comédie musicale Les Dix Commandements.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Chanson d'amour, puisqu'on parle du mariage ce matin, le mariage religieux et notamment la préparation au mariage catholique avec nos deux invités, Anne L'Hospitalier. Je rappelle que vous faites partie de la pastorale des familles du centre diocésain de pastorale du diocèse de Clermont-Ferrand et Anne-Gabrielle Collin, déléguée épiscopale à la famille du diocèse d'Angers. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes en voiture, on vous écoute.
Oui, alors je tenais juste à apporter mon témoignage sur la préparation au mariage catholique. Donc nous, on a fêté nos 10 ans de mariage cette année avec ma femme en octobre, le 4.
Bravo.
Et merci. Et donc je me rappelle les trois temps principaux de la préparation au mariage qu'on avait pu faire. Donc, on a eu la chance d'avoir un peu de préparation au mariage. Une première qui était dans le cadre d'une retraite avec les jésuites, près de Paris. Et puis, on a été accompagné par le prêtre qui allait, qui nous a mariés, qui est un ami, qui lui est dominicain. Et donc, ces trois temps pour moi, si je synthétise, il y avait une première partie, c'était un peu qui on est chacun, finalement, dans le couple. La deuxième partie qui était pourquoi on est en couple aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'en fait on a envie de s'engager. Et puis la troisième partie qui était comment est-ce qu'on se projette en fait dans notre vie ensemble. Et j'ai l'impression que c'est surtout la première et la troisième partie qui sont un peu peut-être moins intuitives, qui m'ont le plus marqué dans cette préparation et dont je garde le plus d'éléments. Et les gens souvent se disent préparation au mariage, c'est pourquoi on est en couple, pourquoi on veut passer notre vie ensemble et tout. Et je pense que ce qui était très intéressant, c'était c'est cette première et cette troisième partie justement.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pu témoigner. Vous êtes dans quel coin, là, en voiture ?
Alors, je suis dans le Calvados.
Dans le Calvados.
Voilà.
Eh bien, parfait. Allez, bonne route, faites attention à vous et merci beaucoup pour votre témoignage. Anne-Gabrielle Collin, je vous ai vu un peu opiner du chef en entendant ce témoignage.
Oui, effectivement, c'est sur la question qui on est chacun que j'ai réagi, parce que, de fait... nous commençons souvent nos préparations par ce temps, se découvrir soi-même, ou faire dire aussi à son conjoint les qualités qu'on lui trouve, et parce qu'il y a une, ça nous paraît important d'apprendre à se connaître pour pouvoir communiquer efficacement, voilà. Donc il y a ce temps-là qui est prévu dans les préparations au mariage. Ensuite, sur le... Je ne sais plus... c'était sur comment on se projette qui trouvait que...
Oui, notamment.
Que c'était moins abordé. Comment on se projette, oui, c'est l'idée de se poser des questions qu'on ne s'est pas posées. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est que Nicolas disait les couples viennent en se disant « Oui, préparation au mariage, on va se demander pourquoi on est en couple. » En fait, préparation au mariage, la plupart des gens qui viennent disent « Alors, on va préparer notre messe, notre célébration. » Et quand on leur propose tous les ateliers sur... aussi on leur propose des ateliers à partir de la parole de Dieu, sur se projeter dans le mariage, et là c'est vraiment une surprise, et la plupart du temps c'est une bonne surprise.
Anne L'Hospitalier, peut-être un commentaire sur ce qu'on a entendu de la part de Nicolas.
Oui, alors je dirais également, c'est que la découverte de chacun, ça fait partie aussi de nos parcours, qui on est chacun, bien se connaître, arriver à communiquer entre nous. C'est très important, il faut vraiment le souligner auprès des couples qui arrivent. Alors comment on se projette, ça arrive peut-être un petit peu moins souvent, mais il y a de plus en plus de couples qui arrivent et qui sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans, donc peut-être que la projection dans l'avenir est moins présente parce qu'ils l'ont fait il y a 10 ans, mais apprendre à mieux se connaître. Je pense que l'Église peut apporter beaucoup de choses dans ce domaine-là pour se poser les bonnes questions et bien communiquer en couple.
Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Bienvenue depuis la Drôme, on vous écoute.
Merci de m'accueillir. Oui, donc je suis extrêmement intéressée par l'émission qui est en cours. Mon époux et moi, nous sommes donc accompagnateurs de couples qui sont sur le chemin du mariage. Et ce week-end, on avait animé avec un prêtre jésuite au Châtelard, au nord donc de Lyon, une session fiancée. Et pour donc en vue de la préparation au mariage. Donc juste pour rebondir ce qui a été dit à l'instant. Les thématiques qui sont abordées, nous on parle beaucoup de la communication, de la vie de couple au quotidien. Ensuite on parle beaucoup de la foi, des sacrements, et on leur donne donc tout au long du déroulé, ils ont des petits carnets dans un cadre assez spécial et magnifique au Châtelard, où ils peuvent se poser des questions et se retrouver en couple. Et nous, l'objet de mon appel, c'était d'insister justement sur la question qui est venue, qui est comment est-ce qu'on se projette. En fait, comment se projeter, c'est que l'Église a, je pense, déjà mis en œuvre une sorte de service après-vente du mariage pour éviter les mésententes, la mauvaise communication et les mésalliances ou même les séparations.
Oui.
Eh bien, c'est par exemple, on leur témoigne, nous, ce qu'on a fait. Donc, on est parti en couple, on est un couple mixte, donc c'est déjà pas évident de se comprendre.
où on a fait des stages de formation, par exemple pour la communication non violente. Par exemple, on a un accompagnement de couple avec une médecin chrétienne, ça s'appelle Imago. On va soigner la relation à deux, c'est pas de la psychothérapie, mais c'est un accompagnement soft qui convient très bien, surtout au monsieur. Et en ce qui concerne notre vie de couple, on l'a étayé par des groupes de prière, par des sessions, par des fraternités canins,
oui,
par les EMD. Nous n'avons cessé nous-mêmes de nous perfectionner dans notre relation à tous les points de vue. Et on n'est pas resté seul, on n'est pas resté isolé. Parce que je crois qu'un couple isolé, c'est un peu comme un couple, comme un chrétien en danger. Comme un chrétien isolé, il est en danger. Voilà, ce sur quoi je voulais insister, c'est dans le monde du travail, on fait de la formation continue. Pourquoi pas, pour notre couple, ne pas faire de la formation continue, ce qui permet aux jeunes, qui rentrent dans la vie de mariage, quel que soit leur état de vie passé, eh bien d'avoir des clés, d'avoir des billes pour tenir et améliorer la qualité de leur amour et de leur relation.
Merci Marilyn, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est intéressant l'hospitalier. Alors là, je trouve qu'on est moins dans la préparation, plus dans une forme de formation quand même au mariage. Est-ce qu'il faut aller jusque-là d'après vous ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a la préparation au mariage où on explique aux jeunes ou moins jeunes ce qu'est le sacrement et sur ce vers quoi avec Dieu ils vont s'engager. Mais le mariage, ça ne s'arrête pas. C'est pas le jour du mariage qu'on arrête de se poser des questions. Il faut continuer après le mariage de communiquer, de se poser les bonnes questions. Et puis si on n'y arrive pas, effectivement, de continuer des formations. Alors il n'y a pas d'obligation, mais je pense que toute formation est bonne, bonne à prendre surtout quand il y a des tensions dans le couple.
Ouais. Donc ça aurait du sens.
Ah, tout à fait, oui, ouais. Je pense, oui.
Anne-Gabrielle, vous en pensez quoi ?
Alors, plusieurs choses. Alors, d'abord, votre auditrice a apporté un élément intéressant qui est celui du service après-vente du mariage ou de tout ce qui va venir après. Comme l'a redit Anne, le jour du mariage, c'est pas un aboutissement. En fait, le mariage, c'est toute la vie. Donc, c'est toute la vie qu'il va falloir en prendre soin. Et il y a un vrai savoir-faire de l'Église dans la suite. Et c'est des choses dont on parle au cours des petites formations qui précèdent le mariage. Cette préparation qui précède, on va parler au couple. Des personnes qui pourront les accompagner s'ils ont des difficultés, comme par exemple les conseillers conjugaux et familiaux ou les thérapeutes de couple, ou les personnes qui proposent des thérapies de type Imago, par exemple. Et puis, on va aussi les inciter à continuer les échanges soit dans leur couple, soit au sein d'un groupe, en se faisant accompagner d'associations qui leur conviendra le mieux. Il y a des associations qui proposent des rencontres régulières tous les mois avec d'autres couples, pour ceux qui aiment le partage en groupe, et se rendre compte que d'autres couples vivent les mêmes problématiques que soi, donc comme les équipes Notre-Dame, les équipes Tandem, enfin il y a pas mal de propositions. Et puis il y a d'autres associations qui proposent plutôt des temps ponctuels, donc soit sur des week-ends ou des sessions, ou des temps ponctuels avec des dîners le soir, comme Alpha Couple, par exemple. Et donc ça nous paraît très important. Et peut-être ça nous dit que de quoi parle-t-on quand on parle préparation au mariage ? Et le pape François, enfin tout son entourage, hein, le dicaster à Rome pour la famille, a écrit tout un nouveau document qui nous redit ce que c'est la préparation au mariage. Et que la préparation au mariage, en fait, c'est pas seulement ces quelques semaines qui vont précéder le mariage. Donc ça, le pape François appelle la préparation immédiate au mariage. Mais pour lui, il voit ça dans un ensemble beaucoup plus large qui démarrerait presque dès l'enfance. Ce serait une préparation lointaine au mariage. Comment on apprend à savoir qui on est, mais dès le plus jeune âge, comment on apprend à vivre avec son corps, à vivre en relation avec les autres. Après, il y a cette préparation qui va durer, selon les personnes, 2 ans à quelques mois et qui précède le mariage, donc c'est la préparation proche ou immédiate. Et puis, il y a toute la suite, tout cet accompagnement qui est un peu après le mariage, mais qui est encore un type de préparation. Voilà.
Je reviens un peu, Anne l'Hospitalier, sur tout ce que vous faites, vous, dans votre diocèse du côté de Clermont-Ferrand, parce que voilà, on l'a dit, et vous organisez une journée des fiancés chaque année, je crois, qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans cette préparation au mariage. C'était le 1er février, donc elle a eu lieu, cette journée des fiancés, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu le mécanisme ?
Alors, en fait, elle n'existe pas encore. C'est que je voudrais la monter pour le 1er
d'accord.
février 2025.
Oui, je suis pas à jour. Oui.
Voilà, donc et en fait il existe des rencontres, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des paroisses qui ont très peu de mariages, donc il existe des rencontres au niveau doyenné, parce que nous sommes certaines paroisses, les paroisses sont regroupées en doyenné. Et moi, j'ai le projet donc pour le 1er février 2025 de regrouper tous les futurs mariés donc au centre diocésain de Clermont pour une journée. D'échanges, d'enseignements avec notre évêque et notre vicaire général. Voilà, il y aura des ateliers où ils pourront échanger, on leur posera des questions, où les futurs mariés pourront échanger entre eux et devant les autres. Et je trouve très important que les fiancés ne soient pas tout seuls, qu'ils aient au moins un moment où ils puissent entendre les questions que se posent les autres fiancés, parce qu'ils se les poseront certainement un jour ou l'autre entre eux. Et des moments d'échange sont très importants. Voilà, donc cette journée aura lieu dans un an presque. Voilà.
Nous avons Nathalie au 04 72 38 20 23. Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour Melchior.
Bonjour.
J'aurais bien aimé donc intervenir. Merci,
mais bien
Nathalie.
Sûr, c'est ce que vous faites.
Ben oui, tout à fait. Je m'y attendais pas. J'ai pris hélas un petit peu l'émission en cours, donc je serais un peu désolée. Je n'ai pas entendu le tout début. C'est le problème de la radio et du coup je suis collée là, scotchée. Je trouve que tout est passionnant et en fait je voulais témoigner parce que moi je vais bientôt fêter mes 42 ans. Nous allons fêter nos 42 ans de mariage.
Oui.
Et je trouve que tout ce que j'ai entendu, c'est vrai que ce sont des choses que l'on aurait aimé avoir à l'époque, mais on avait encore beaucoup de formation chrétienne à l'époque quand même dans nos deux familles. Et je trouve que c'est passionnant. Mais ce dont on a entendu surtout parler, j'ai l'impression que c'est comme une première retraite, c'est un début. Et par expérience, je pense que sur la foi et la force du sacrement, ça a été un peu évoqué par une intervenante il y a 10 minutes, 5 minutes, mais je pense que la force du sacrement, moi je l'ai découvert tout au long de mon mariage dans les difficultés parce qu'il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup de joie et il faut s'en remonter la pente en ces moments-là. Et il y a quand même aussi des difficultés professionnelles ou même à deux ou vis-à-vis des enfants ou dans la famille, etc. Mmh. Et je pense que le sacrement de mariage, il y a vraiment Dieu. C'est-à-dire que c'est un mariage, on est à trois avec Dieu. Et je crois que vraiment il y a un problème quand on ne prie pas ensemble, quand on ne va pas se poser de temps en temps une retraite ou... Il y a des week-ends en amoureux, mais aussi des week-ends de retraite où de remettre son sacrement de mariage, c'était énorme. Et je pense qu'on oublie de le dire. Et je pense que quand on se marie à l'Église, on adhère à l'Église catholique et que c'est une force, cette famille que l'on retrouve au moins tous les dimanches. La force du sacrement de pardon, la force de l'Eucharistie, la force de la prière en couple au moins une fois de temps en temps et au moment grand, des moments importants de la vie chrétienne. Et puis le bénédicité, et tout ça fait que c'est une force en cas de souci. Et je voulais aussi vous parler, je pense que ce film s'appelle « Cœur de chair », que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et hélas, notre évêque n'a pas pu venir alors qu'on l'attendait. Il n'a pas pu, parce qu'il y avait un débat après le film. Et je pense que c'est un problème énorme aujourd'hui et qu'il faudrait évoquer. Je pense que ce film devrait être vu à chaque préparation de mariage. Parce qu'autour de moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de divorces aussi, même au bout de 25-30 ans de mariage, parce que l'un des deux est addict au porno ou à d'autres choses.
Ah oui.
Et le film, je crois que c'est Cœur de chair.
Oui, Cœur de chair, exactement. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage. C'est un documentaire qui est disponible, je crois, en DVD. Là aussi, c'était très intéressant, hein, Gabriel Collin, peut-être sur la partie plutôt spirituelle du mariage. C'est vrai qu'on a évoqué ensemble, tous les trois, plutôt le déroulé d'une préparation mariage religieux. On se rend compte qu'il y a plusieurs étapes pour essayer de comprendre et tout ça. Quelle est la place de la foi dans cette préparation? Elle est évidente?
Eh bien, peut-être au démarrage, quand on a démarré avec notre époux, avec mon époux, la préparation au mariage, il y avait une place pour parler de vie de foi, mais elle était peut-être un petit peu en recul par rapport à d'autres thématiques. Aussi, peut-être parce que les candidats avaient une assise catéchétique plus importante. Et depuis 2-3 ans, aussi parce qu'on a des orientations diocésaines qui nous sont données par notre évêque, nous avons renforcé la place des thématiques autour de la foi dans notre préparation au mariage, notamment en faisant des témoignages sur le parcours de foi de chacun, y compris des fiancés, et on découvre de belles choses, même de personnes qu'on reçut très peu au niveau de la catéchèse, mais de relations à Dieu. On a augmenté le nombre de thématiques qu'on aborde sous le prisme de la parole de Dieu. Voilà, que nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit du pardon dans l'évangile, qu'est-ce qu'on nous dit de la gestion de l'argent dans l'évangile et dans les différents textes. Donc, pour faire rentrer un peu plus la parole de Dieu, et puis la place de la prière, en le donnant un kit de prière en couple. Voilà, vous savez pas prier, mais allez-y, faites-le en faisant intervenir des témoins qui disent comment ils prient en couple, ou voire en proposant à notre week-end diocésain une courte veillée de louanges pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Mais ça prend super bien, et je dois dire que je suis assez époustouflée de voir comme des personnes qui, comme ça, nous paraîtraient assez loin de l'Église, ont soif. Ils ont vraiment soif de Jésus-Christ.
Oui, donc voilà, vraiment la foi qui fait partie à part entière de cette préparation au mariage religieux. On a Claire de Paris qui rapidement voudrait nous dire quelque chose. Claire, bonjour.
Oui, bonjour. Je vais mettre un peu d'ombre dans le tableau, j'en suis désolée. Mais je fais partie d'une association qui s'appelle Chrétiens divorcés chemin d'espérance, oui, avec une revue 3 fois par an. Et j'ai fait de l'accompagnement de personnes séparées, divorcées, oui, ou divorcées en nouvelle union. Donc nous nous situons plutôt du côté de l'échec du mariage, évidemment. Et ce que nous remarquons beaucoup, c'est que il y a eu un problème au niveau du consentement lui-même. Et donc je crois qu'il faudrait beaucoup, dans la préparation au mariage, essayer d'expliciter pourquoi et à qui on donne le consentement. D'autre part, bon, ça, je ne peux pas élaborer maintenant, ce serait un peu trop long. Mais enfin, c'est quelque chose que nous remarquons beaucoup dans notre accompagnement, c'est qu'il y a eu vraiment un problème au niveau du consentement. Soit de l'immaturité, soit une mauvaise raison de s'engager, etc. Donc c'est très, très important.
Merci Claire, merci vraiment d'avoir apporté ce témoignage. C'est bien parce qu'au moins on entend un peu tous les avis, toutes les remarques. Ça nous permet de prendre du recul aussi sur le sujet à l'hospitalier, sur le consentement. Est-ce que c'est... on en parle de plus en plus au sein de la préparation du mariage.
Alors, comme je ne m'occupe pas vraiment des futurs mariés directement, je ne peux pas dire si on parle beaucoup du consentement, mais je pense quand même qu'on insiste beaucoup sur la communication entre les futurs mariés et l'engagement qu'ils vont prendre. Donc je pense que le consentement implicitement, il en fait partie, surtout sur l'indissolubilité du mariage. Il faut être conscient de ce que l'on fait, il faut vraiment savoir ce que l'on fait.
Peut-être un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Anne-Gabrielle Collin, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui justement sont en train de préparer leur mariage, un mot à leur transmettre.
Oh, il y aurait tellement de mots à dire. Oui. Voilà, le mariage, c'est beau. Certains pensent que le mariage va rien changer parce qu'ils vivent ensemble depuis 10 ans, 15 ans, qu'ils ont déjà des enfants. Voilà, moi je crois, voilà, que le mariage change parce qu'il y a cette force du sacrement, parce qu'il y a ce temps qu'on se sera donné à le préparer. Et pour autant, j'entends ce que disait Claire, c'est pas d'angélisme non plus. Voilà, il y a pas de, c'est pas une garantie le fait de s'être préparé au mariage ou d'avoir vécu ce sacrement. C'est pas une garantie contre l'échec. Donc, allez de l'avant donnez-vous. Voilà, peut-être on n'a pas parlé de ça. Le mariage, c'est le don de soi, oser se donner à l'autre.
Merci Anne-Gabrielle Collin d'avoir été avec nous, déléguée épiscopale à la famille du diocèse d'Angers, à retrouver sur le site diocèse49.org. Merci Anne l'Hospitalier également pour votre participation, membre de la pastorale des familles du centre diocésain de pastorale du diocèse de Clermont-Ferrand. Et là aussi, on peut retrouver plus d'informations sur le site clermont.catholique.fr. Il est 10h55, on arrive presque à la fin de cette émission, puisque comme tous les lundis, et c'est une tradition, on parle de la petite enfance. Et nous retrouvons Camille Bélier de l'association Mille et un mots avec le soutien de la fondation Saint-Irénée. Bonjour Camille.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous nous parlez de la période de l'explosion lexicale. Qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'est un moment assez incroyable dans le développement de l'enfant et de son langage. Et imaginez-vous à la place du parent qui a entendu il y a quelques mois son bébé dire son tout premier mot. C'était peut-être même d'ailleurs papa ou maman. Ah, quelle merveille ! Et puis, dans les semaines qui ont suivi, d'autres mots se sont ajoutés petit à petit. Et puis au début, vous les avez comptés, peut-être soigneusement notés dans un carnet, et vous avez sûrement fièrement partagé la nouvelle avec toute votre famille. Et puis après plusieurs mois, bon, vous avez un peu arrêté de noter les mots, mais si vous preniez le temps de le faire, vous constatez qu'il y en a une cinquantaine là déjà de mots de vocabulaire pour votre enfant. Et surtout des mots pour nommer les choses du quotidien. Les personnes qui entourent l'enfant, les choses qu'il mange, ses vêtements, ses jouets. Il y a aussi les bruits des animaux qu'il a imités avec vous quand vous lui avez demandé « Ah, comment il fait le chien ?» Et puis quelques expressions qu'il a apprises dans les jeux, les routines avec vous, par exemple « Tiens » ou « Badaboum, il est là !» Et là, d'un coup, sans que vous ne compreniez pourquoi, vous avez l'impression que votre enfant a passé la vitesse supérieure. Depuis une semaine, il vous dit plusieurs mots nouveaux tous les jours. Vous n'arrivez même plus à tenir le compte. Et en plus, il utilise tous ces mots dans plein de contextes différents. Par exemple, il va plus dire « ballon » juste pour parler de la petite balle avec laquelle il joue tous les jours, mais aussi pour désigner le ballon de baudruche qu'il voit passer dans la rue, ou le ballon de rugby qu'il y a sur la couverture du journal sur la table du salon, ou bien le ballon de plage dessiné sur son nouveau livre. Et en plus, il commence même à utiliser de plus en plus de verbes et d'adjectifs. Et alors là, ça paraît encore plus incroyable que quand il a dit son premier mot.
J'imagine qu'il y a une explication à ce changement soudain. Qu'est-ce qui a déclenché cette accélération rapidement, Camille ?
Alors, les chercheurs ont proposé plusieurs pistes, dont aucune ne semble vraiment suffisante par elle-même. Il semblerait donc que ce soit un peu l'association de plusieurs éléments qui permettent ce qu'on appelle cette phase d'explosion lexicale. Le premier élément d'explication, il est lié au développement cognitif de l'enfant. L'enfant a maintenant la capacité de catégoriser les choses, ce qui lui permet de retenir plus facilement des nouveaux mots. C'est un peu comme s'il pouvait mieux les ranger dans sa tête et mieux aller les rechercher pour pouvoir les dire. Un autre élément, c'est le développement de sa capacité à articuler. Le bébé peut maintenant articuler des mots avec plus de syllabes et puis aussi des sons plus compliqués. Il est donc en capacité d'en prononcer beaucoup plus. Et une autre explication va être là plutôt liée à son environnement. À cet âge-là, l'enfant marche, il se déplace beaucoup plus et son univers s'est élargi. Il peut donc parler de plus de choses parce qu'il en voit et il en manipule beaucoup plus qu'avant. Et puis c'est aussi la période où il va plus aller vers d'autres enfants et être plus acteur de ce qu'il se passe autour de lui. Il va donc avoir beaucoup plus besoin et beaucoup plus envie de communiquer avec les personnes qui l'entourent. Et dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que vers un an et demi, deux ans, à partir du moment où l'enfant est capable de dire environ 50 mots, il entre alors dans cette phase d'explosion lexicale et il est capable de dire jusqu'à 10 nouveaux mots par jour.
Eh ben merci beaucoup Camille Bélier d'avoir été avec nous pour nous parler de cette explosion lexicale à retrouver sur votre site avec tout ce que vous faites sur le site milletunmot.org. Merci à toutes et tous pour vos témoignages, vos appels ce matin. On va se retrouver demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis.